Deltic.
Bonjour, nous allons parler de la mer, de l'océan dans ce nouveau numéro du magazine qui, chaque dimanche à cette heure-ci, interroge, vous le savez, celles et ceux qui pensent le monde. Nous n'allons pas nous attarder sur la navigation, la marine à proprement parler, mais sur ce que la mer et l'océan disent de nous, par exemple. Petite philosophie de la mer, c'est le titre du nouvel essai de notre invité, Laurence de Villers. La mer, c'est la vie, et plus encore le sens de la vie. Elle dit ce qu'exister signifie. Elle délivre inlassablement ses leçons et conseils pour qui sait écouter, se poser en silence pour recueillir sa philosophie, écrit-elle. Prenons donc le large dans ce nouveau numéro d'idées, un magazine que vous pouvez aussi retrouver sur notre site ou sur votre plateforme numérique préférée afin de l'écouter quand vous le souhaitez.
La mer n'existe pas. Parfois nous la rêvons, mais elle n'existe pas. Ce n'est qu'une intuition. La mer n'existe pas. Parfois nous la croyons, mais elle n'existe pas. Ce n'est qu'une illusion.
Art Mengo, La mer n'existe pas, un grand succès des années 80. Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour Pierre-Edouard Daldi.
Il prend le contre-pied de ce que vous dites.
Il prend le contre-pied, c'est surprenant parce qu'il commence par dire que la mer n'existe pas alors que moi j'ai l'impression que je ne vois qu'elle. Mais il a raison de dire qu'il y a dans la mer... Pour moitié, la mer n'existe pas, c'est-à-dire qu'en réalité, elle est faite de tout ce que nous y mettons. Et il a raison, il y a croyance, il y a rêve, il y a poésie, il y a liberté, il y a le sens de la vie, ou en tout cas une image de ce qu'est la vie. Donc en réalité, je suis d'accord pour une part avec lui pour dire la mer n'existe pas.
Laurence de Villers, vous êtes agrégée, docteur en philosophie, spécialiste de Descartes notamment et de Pascal, auteur de nombreux essais philosophiques dont nous avons parlé dans cette émission. C'est toujours un plaisir de vous recevoir.
Plaisir partagé.
J'ajoute que vous êtes enseignante à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris. Voici donc cette petite philosophie de la mer aux éditions de La Martinière qui n'est pas si petite que ça. Le titre est modeste, Laurence de Villers. Où, en lisant ce livre que je conseille et qu'il faut emporter en vacances pour les auditeurs français qui nous écoutent. En lisant ce livre, je me suis aperçu que la mer, en tout cas, était une source de métaphores incroyables, d'images.
Oui, et ce qui est encore plus surprenant peut-être, c'est qu'elle est source de métaphores pour la philosophie. C'est surprenant pourquoi ? Parce qu'on pourrait se dire que la philosophie ne devrait pas avoir recours aux images. D'abord, pas par tradition. Pensons au geste de Platon qui veut libérer la philosophie de tout ce qui ne serait pas conceptuel ou idée ou raisonnement. Et puis, encore plus surprenant, comment se fait-il que la philosophie, quand elle veut dire quelque chose d'essentiel de ce qu'est la condition humaine ou de ce que signifie vivre pour l'homme, utilise des métaphores ? Le livre, il est presque parti de cela. Cet étonnement que j'ai eu chez Épictète, chez Pascal, chez Spinoza, à des moments fondamentaux, cruciaux de leur philosophie, quand il s'agissait de dire « voilà, l'homme sait où vivre, ça signifie », ils utilisaient une métaphore maritime.
Et tout au long de cette émission, on constatera que vous avez beaucoup utilisé, enfin, été inspiré par la poésie.
Ah oui, alors voilà, c'est intéressant ce que vous me dites, bon, comme toujours avec votre lecture très, très aiguë. En fait, oui, voilà ma proposition, en tout cas ce qui s'est passé dans ce livre, pour vous dire le laboratoire dans lequel j'étais au moment où je l'écrivais. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui pensaient et qui n'étaient pas uniquement la philosophie, alors que mes maîtres en philosophie sont des grands conceptuels. Descartes n'emprunte rien à personne d'autre qu'au philosophe ou à la philosophie pour penser. Mais je me suis rendu compte que la mer, c'est-à-dire notre regard, la perception, pensait. La façon dont nous regardons la mer, et puis vous avez complètement raison, la poésie. Vous savez, Léonard de Vinci disait de la peinture que c'était une chose mentale, donc que la peinture pense. Eh bien, la poésie pense. Et effectivement, vous avez raison, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de poètes qui accompagnaient les philosophes qui m'aidaient à penser, parce que les poètes nous aidaient à penser quelque chose de la mer.
D'ailleurs, vous allez nous lire, s'il vous plaît, la première strophe d'un poème célèbre de Baudelaire.
Homme libre, toujours, tu chériras la mer. La mer est ton miroir. Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame. Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer.
Il faut lire l'ensemble du poème. Mais homme libre, tu chériras la mer, strophe célèbre, qui résume un petit peu aussi votre livre, que je précise, parce qu'il faut faire aujourd'hui, que homme, c'est générique. Certains pourraient m'en faire le reproche. Femme aussi, tu chériras la mer, bien sûr. Elisa Morette, vous allez nous parler d'emblée dans cette émission du travail, du parcours et de l'œuvre de Laurence de Villers, que l'on connaît, puisque nous l'aimons dans cette émission, mais un petit rappel est bienvenu.
Vous avez découvert la philosophie en lisant Adolescente, le temps d'un été, ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche. Et depuis, Laurence de Villers, la doctrine de la morale et les principes de bien et de mal ne vous ont pas quitté. En 2019, aux éditions Presse Universitaire de France, vous publiez « Être quelqu'un de bien », un livre dans lequel vous vous demandez « À quoi reconnaît-on quelqu'un de bien ?». Vous êtes également l'autrice de « Guérir la vie par la philosophie », publié aux mêmes éditions en 2017, un ouvrage dans lequel vous défendez une philosophie appliquée à la vie de tous les jours. Philosophe agrégé, spécialiste du XVIIe siècle, vous avez soutenu votre thèse en 2000 sur René Descartes. Vous lui avez d'ailleurs consacré plusieurs ouvrages. Enfin, vous aimez aussi décortiquer les expressions toutes faites du quotidien, comme « l'erreur est humaine »,« l'argent ne fait pas le bonheur » ou encore « quand on veut, on peut », pour en tirer quelques leçons philosophiques. Vous les avez regroupées en 2010 dans le livre « Bref de philo » aux éditions Point.
Elisa Morette vous a bien lu, Laurence de Villers.
Merci. Et même, elle sait des choses que je ne pensais pas qu'elle saurait. Oui, effectivement, j'ai commencé par Nietzsche et... Bon, ça ne me rajeunit pas votre portrait, je me rends compte que ma thèse est loin, mais...
Une vie, une œuvre.
Merci beaucoup.
Ce qui est important, c'est effectivement cette accroche sur la vie, la philosophie et la vie. Pour vous, la philosophie que vous connaissez parfaitement n'est pas quelque chose d'éthéré, c'est quelque chose qui forcément nous concerne toutes et tous.
Je ne fais pas de distinction entre la vie et la philosophie. Je vis avec toute l'aide de la philosophie, conceptuelle, intellectuelle, mais aussi de sensations et de beauté. Je vais vous étonner, des textes de philosophie qui m'accompagnent dans la vie parce que je les trouve très beaux. Et de la même façon, la philosophie contient la vie. On ne parle que de la vie. Finalement, je pense à Pascal que j'ai rejoint en délaissant Descartes, le leitmotiv des pensées de Pascal, on ne le dit pas assez souvent, c'est « qu'est-ce que je vais faire ? Comment agir ? Comment vivre en réalité ?» Et Pascal le dit, il y a des choses qui sont peut-être pas tellement utiles, ou en tout cas, on ne réussira pas à les penser, mais au moins, on saura un petit peu mieux comment vivre. Et ça me paraît essentiel.
Vous écrivez dans « Petite philosophie de la mer », Laurence de Villers, en un mot, la mer, c'est la vie, et plus encore, le sens de la vie. Il faut rappeler que la mer, c'est 70% de la surface terrestre. Donc, nous, terriens, nous sommes rien à côté de ce continent qu'est la mer.
Nous ne sommes rien, et je pense que ceux qui prennent la mer ou ne serait-ce que nager, on fait cette expérience première, je crois, du frisson entre peur et émerveillement, parce que c'est lié à une humilité. Mais je crois que l'humilité est quelque chose de bénéfique. Je pense que c'est une vertu. Par l'humilité, on trouve sa vraie place, on cherche à comprendre davantage. Et effectivement, la mer, c'est une claque d'humilité. On est rien. D'abord, on ne va en mer qu'en tant qu'invité. Enfin, on n'a rien à y faire. À part, c'est pas un espace humain, la mer. Elle est inhumaine. Elle en donne des leçons, même douloureuses, très souvent. Et puis, ça nous ramène au fait que la beauté est un sanctuaire. C'est-à-dire que, et je pense que la mer nous donne aussi cette leçon-là, que la beauté nous dit... Tu ne me toucheras pas. Il n'y a pas d'emprise. La beauté, c'est pas quelque chose à disposition. Et pour préserver la nature, c'est cette expression qu'on entend peut-être trop à un point où elle signifie plus grand chose. Mais il me semble qu'elle commence par le fait de se sentir humble et seulement invité face à la beauté et pour moi la beauté de la mer.
Et vous dites aussi que la mer, c'est l'horizon sans limite. Qui n'a pas contemplé la mer en se laissant aller, bercer, hypnotiser ?
La mer est le seul paysage, je crois, et je ne suis pas convaincue que ce soit un paysage, mais la mer est ce seul endroit, si tant est qu'elle soit même un lieu, mais qui nous donne immédiatement, quand on la regarde, peut-être après ce frisson de peur, l'envie de larguer les amarres. D'abord parce qu'elle nous donne l'horizon. Enfin, c'est quand même exceptionnel à nous humains d'être non seulement d'avoir l'horizon pour face à face, et puis la voûte céleste. Enfin, c'est arrivé même de... Oui. Enfin, ça m'est arrivé de nager en mer et de voir l'horizon face à moi et le dôme de la voûte céleste. Et là, on est pris d'une sensation et d'un désir de liberté. Vous voyez, ce que la philosophie me dit, les philosophes n'ont pas arrêté de me parler de la liberté. Ben, le tout premier Descartes, je pense à Bergson aussi, qui dit qu'on n'a pas si souvent d'actes de liberté. Eh bien, je l'ai lu, j'ai essayé de le comprendre, j'ai même fait des cours sur la liberté. Mais en mer, on a une sensation, enfin, on le vit, ça devient tangible. On a envie de partir.
Alors nous parlons jusqu'ici de la mer en tant que poète, amateur de poésie, de beauté, mais il y a aussi ceux qui voient en la mer un instrument de travail, enfin qui travaillent, les travailleurs de la mer, les pêcheurs, même les navigateurs qui ont une autre vision de la mer, mais tous, à un moment donné, quand même, succombent sans doute à cette fascination pour la mer, ne serait-ce que parce qu'elle est inhumaine précisément.
Voilà, je pense que la fascination, elle s'enracine sur le fait que, sur un paradoxe. C'est-à-dire que la mer, comme le dit ces vers que vous m'avez fait lire de Baudelaire, la mer est mon miroir. Michelet dit, la mer, c'est la vie qui parle à la vie. Donc oui, on a le sentiment que d'abord, la mer est le seul paysage qui parle, par elle-même. Alors on me dira la forêt, bah non, la forêt, faut qu'il y ait du vent et des oiseaux pour qu'il parle. La mer me parle. On ne comprend pas ce qu'elle dit, mais la mer me parle. Donc il y a ce paradoxe de la mer qui ne cesse de me parler et en même temps elle est inhumaine, c'est-à-dire que elle est plus grande que moi. Alors ça paraît banal, mais non, il y a une expérience de transcendance dans la mer et c'est vrai que les marins même quand ils ont ce côté très un peu âpre des marins, pour qui la mer c'est pas de la poésie, c'est pas juste deux trois vers et se dire c'est beau, c'est une épreuve. Même eux, je pense à un marin que j'admire beaucoup, Isabelle Autissier, même elle, il y a de la poésie, oui, quand elle nous parle de la mer, parce que il y a quand même cette il y a une expérience de transcendance dans la mer. Je cherche en fait le mot pour dire ça. Il y a du sublime, il y a quelque chose qui est plus beau que beau.
Oui, parce que comme elle est inhumaine, elle oblige l'être humain à se surpasser pour être à la hauteur en quelque sorte.
Et peut-être qu'elle oblige l'humain à être relié à ce qui en lui le dépasse. Je parlais de Pascal, je pense qu'il y a une phrase qu'on commente pas assez de Pascal, l'homme passe l'homme. Pas seulement parce que l'homme serait connecté à du divin, mais il y a en l'homme plus que l'homme pense qu'il n'a en lui, plus que l'homme ne désire. Je pense qu'il y a une transcendance en nous. Et la mer nous le fait découvrir.
La mer qui donne aussi envie de partir, de fuir. Écoutons Mallarmé.
Brise marine. Stéphane Mallarmé. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas, fuir. Je sens que des oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux, ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe. Ô nuit, ni la clarté déserte de ma lampe sur le vide papier que la blancheur défend, et ni la jeune femme allaitant son enfant. Je partirai, steamer balançant ta mâture, lève l'ancre pour une exotique nature. Un ennui, désolé par les cruels espoirs, croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs. Et peut-être les mâts invitant les orages sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages, perdus, sans mâts ni fertiles îlots. Mais ô mon cœur, entends le chant des matelots.
Brise marine, un poème composé par Stéphane Mallarmé en 1865. L'océan et la fuite, il faut prendre la mer pour fuir, Laurence de Villers.
Fuir. Effectivement, la mer et ce non-paysage, ce dépaysage au sens strict, c'est-à-dire qu'elle m'ôte tous mes paysages, tout ce qui me sert de prétexte, tout mon décor, tous mes contextes, toutes mes habitudes, et elle ne me dit qu'une chose, là-bas, fuir. Donc, en fait, elle me démunit, elle me désarme. Et encore une fois, je pense qu'il n'y a que la mer qui nous donne à toucher l'expérience de la liberté, et la liberté quand même comme là-bas, fuir, y compris dans ce qu'il y a de plus tragique quand les migrants traversent les mers pour fuir.
C'est prendre le large, c'est aussi remettre à sa juste place ce qui doit l'être, c'est ce que vous écrivez, Laurence de Villers.
Oui, justement, parce que elle me dépayse, pas seulement au sens où c'est exotique, c'est autre chose, mais d'abord, c'est pas surprenant qu'on aille en mer ou à la mer quand on nage, quasi nu. Elle nous dénude. D'abord parce qu'elle, on l'a dit, c'est une expérience d'humilité. Elle me remet à ma place, qui est quand même pas grand-chose face à l'océan. J'y vais avec rien. Même les marins savent que tout l'inventaire qu'ils peuvent faire avant de partir, ça ne supprimera pas l'imprévu. Et puis elle me dit qu'il y a en moi, justement, un appel à plus grand et plus large. Et c'est ça d'abord la liberté. C'est est-ce que je ne suis pas corsetée par des choses qui m'entravent, des croyances, une image de moi, des servitudes, et même l'illusion de celui que je pense être. Donc il y a un dédunement très fort.
C'est jeter l'encre.
Jeter l'encre, mais qui n'a pas eu face à la mer ce sentiment dont nous parlions, et dont parle Mallarmé, fuir là-bas, aller ailleurs. Alors, vous me direz, c'est peut-être pathologique de se dire que la vraie vie est ailleurs. Non, je crois que c'est très sain. Je crois qu'effectivement, cet appel du large qu'on a face à la mer, qu'on soit marin ou pas, marin d'eau douce, tout face à face avec la mer et toute nage, même minime, même faire des châteaux de sable, c'est une expérience de cette transcendance j'essaie de cerner. Mais l'envie de se dire... Oui, il faut partir, la vie est ailleurs. Je pense que c'est important d'avoir cet appel en soi.
À condition d'éviter, là aussi c'est une belle métaphore, le maelstrom, ce courant dangereux, ce tourbillon au large des côtes norvégiennes qui est devenu l'image. Maintenant on utilise ce mot maelstrom quand on est pris dans un bouillonnement.
Alors on a parlé de
dans les trous noirs de la mer, comme vous écrivez.
Ah ouais, absolument, qui existe. C'est un phénomène physique qui est étudié. On a parlé de la poésie, mais la mer, c'est aussi la peur. Enfin, c'est le danger au sens strict. C'est-à-dire, ça rejoint ce qu'on disait. Je vais être face à quelque chose qui me demandera des ressources que peut-être je n'ai pas. Et je pense que c'est salutaire. Et vous savez, je me suis demandé si, en réalité, cette peur face à la mer, je ne l'avais pas cultivée en philosophie aussi. C'est-à-dire que la philosophie m'a saisie, comme vous le disiez, assez jeune, beaucoup trop jeune pour comprendre ce que je lisais. Mais j'ai aimé ce sentiment de peur, c'est-à-dire d'aller m'affronter à quelque chose que peut-être je ne comprendrais pas. Et je pense que ça, c'est à conserver et à cultiver. Et quand on est en mer, évidemment, il faut... quand même parer le danger, c'est tout marin vous le dira, mais je pense qu'il y a quand même aussi un attrait de ce danger qui me dira, va puiser en toi quelque chose que peut-être tu ne sais pas avoir ou que tu n'as pas.
La mer souveraine qui n'arrête pas d'attaquer la terre, qui est toujours, d'ailleurs aujourd'hui c'est une question d'actualité, les rivages morcelés, mangés par la mer, quel que soit l'endroit du monde, ou les îles qui sont submergées, et d'où la nécessité des phares pour signaler quand on est en mer les côtes. Et d'ailleurs vous avez une réflexion qui m'a intrigué, que je trouve terriblement juste, vous demandez ceci, pourquoi au pied d'un phare la mer semble-t-elle toujours plus rageuse qu'ailleurs. C'est vrai qu'elle semble énerver la mer, oui. Effectivement, de voir un obstacle qui est le phare, oui, en pleine mer.
Absolument. Alors évidemment, on me dira que c'est une métaphore, mais c'est une réalité aussi. J'ai souvent observé qu'au pied d'un phare, enfin les phares en mer, la mer est déchaînée. Parce que la mer grignote la terre.
Et parce qu'elle est une insulte à sa puissance, écrivez-vous.
Oui, parce que le phare, c'est à la fois sa grande dignité et son dérisoire, d'une certaine façon. Et je plaide pour qu'on ne fasse pas disparaître les vrais phares, oui. Ceux qui ne sont pas automatiques. Enfin, je pense que ça, c'est quelque chose de notre monde qui ne doit pas disparaître. Je pense que c'est le côté à la fois dérisoire et la grandeur des phares. D'essayer de dire, la mer, on ne peut pas la contenir, mais on va essayer de contenir son danger. Vous voyez, ce danger dont je parlais. C'est-à-dire qu'au milieu des grandes peurs, il y a comme une main tendue ou un poing dressé, c'est ça un phare. Et dans la vie, effectivement, et c'est difficile de se dire que dans les moments de danger où on est démuni, où on est à terre, dans les situations d'injustice, il y a quand même des phares. Et le double danger, c'est de se dire qu'il n'y en a pas et de se tromper sur ces phares. Et je parle d'abord pour moi. Je sais que j'ai cru qu'il y avait des personnes ou des choses qui étaient des phares dans ma vie, qui allaient me sauver contre les dangers, qui en pleine mer étaient une main tendue, et ce n'était pas le cas. Je pense qu'il faut un discernement immense pour choisir ces phares dans l'existence.
Alors je vous propose maintenant d'écouter un autre poète et nous parler des plages. Douce plage, où naquit mon âme, c'est Paul Gentoulet.
Douce plage où naquit mon âme. Et toi, savane en fleurs, que l'océan trempe de pleurs et le soleil de flammes. Douce aux ramiers, douce aux amants, toi de qui la ramure nous charmait d'ombre et de murmures et de roucoulements. Où j'écoute frémir encore un aveu tendre et fier, tandis qu'au loin riait la mer sur le corail sonore.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée. De la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.
Vous écoutez RFI, le magazine Idées, et avec notre invitée Laurence De Villers, nous parlons d'une petite philosophie de la mer illustrée, comme vous pouvez le constater, Laurence, avec de la poésie et des chansons, de la chanson qui est un poème d'ailleurs, c'est La Madrague de Brigitte Bardot. Si nous parlions de la plage, puisqu'il s'agissait de cela dans le poème de Paul Gentoulet, douce plage où naquit mon âme, et dans La Madrague également, vous êtes assez ironique sur les vacances d'aujourd'hui sur la plage. Parce que la mer, c'est aussi, il faut le rappeler, ça paraît tellement évident qu'on n'en a pas parlé, mais c'est aussi les vacances.
Les vacances, la mer.
Théoriquement.
La mer, les vacances, pour beaucoup. Alors, il y a certains qui.
Pour ceux qui ont la chance d'y aller.
Pour ceux qui ont la chance d'y aller, certains vont en montagne, je ne comprends toujours pas, mais bon, certains ne vont pas à la mer.
Moi non plus, pour ne rien vous cacher.
Mais la mer, la plage, alors il y a cette mélancolie hein, qu'on trouve aussi dans la Madrague, hein, chantée par Brigitte Bardot. C'est la mélancolie parce que ce sont les plages de notre enfance. Donc, je pense que ça, c'est aussi très important. La mer porte notre enfance, ce pays. Où nous ne retournerons pas. Et puis aussi la mélancolie, parce que je crois, on le disait, que la mer porte cet appel à la vraie vie qui serait ailleurs. Et on a comme une mélancolie d'une autre vie possible. Et puis, normalement, les vacances. Et alors, vous avez raison, il y a une forme d'ironie. En tout cas, il y a d'abord un étonnement qui commence sur la plage. D'abord, je suis frappée de voir le nombre de vacanciers qui ne regardent pas la mer. Alors, il y en a qui le font, hein. Il y en a même qui restent debout. Alors, ceux-là, ils mettent pas toujours, ils restent debout, ils vont pas nager. Ils sont debout face à la mer. Même la mer, hein, pas seulement l'océan. Donc, cette mer où on peut nager quand même sans apparente difficulté. Mais il y en a qui ne regardent pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, qui mènent la même vie que s'il n'y avait pas la mer. Donc, ils sont très occupés, ils courent, ils crient. Donc, ils n'affrontent pas le silence, hein, parce que la mer, je pense qu'on devrait d'abord faire silence face à la mer. Ils sont là, alors il y a le pique-nique à organiser, le pique-nique à manger, le pique-nique à ranger. Après, on va faire telle ou telle chose. On est dans le faire, enfin, on est vraiment dans l'âge du faire. On ne cesse de faire quelque chose.
Et ça signe bien l'époque aussi, hein.
Oui, parce que je pense que notre époque a maintenant tous les moyens pour qu'il n'y ait jamais de vide dans notre emploi du temps. On a vraiment tous les moyens. C'est-à-dire que même si on a 2 secondes, on regarde son téléphone. Et je ne sais pas ce qui est premier, notre peur du vide ou les moyens technologiques, mais en tout cas, nous sommes arrivés à un moment où le temps n'existe plus. C'est-à-dire le temps, ce quelque chose qui existe, qui dure, que je n'ai pas forcément à remplir. Mais nous avons aboli le temps parce que nous remplissons absolument le temps de gestes, d'actions, de faire. Or, si on repart à la racine même des choses, les vacances, ça veut dire un temps vacant, qui n'est pas occupé. C'est le fameux osium, le loisir des Romains qui étaient opposés au négocium, les gens qui étaient des négociants, qui ne cessaient de faire quelque chose de leur temps. Alors que le loisir, à son origine, c'est pas le loisir tel que nous le vivons, où c'est encore une suite de choses, de sites à voir, de photos à faire, de selfies, etc. C'est ne rien faire. Et je crois que nous sommes arrivés dans une phobie du ne rien faire, du far niente. Nous ne savons plus ne rien faire. Et le tourisme, il y aurait beaucoup à dire sur le tourisme, qui fait des ravages, etc. Mais en même temps, c'est quand même mettre le monde à la disposition du plus grand nombre. Donc, oui, le tourisme a du bon. Mais le tourisme, c'est un staccanovisme. Moi, je suis effarée d'entendre des touristes que je peux croiser en Corse où je vais, où ils me disent, bah là, on a fait le Cap Corse, là, on va là, on va dans le sud. Oh, je leur dis, mais vous serez en vacances quand? En tout cas, je pense que si la mer nous commande quelque chose, c'est l'expérience du silence et du ne rien faire absolu. Donc, une expérience de la liberté, c'est-à-dire de mon temps, je disposerai parce que je n'en ferai rien.
Laurence de Villers, il y a une autre image qui est souvent utilisée, c'est celle de la marée haute, marée basse, car la différence entre la mer et l'océan, faut-il le préciser, c'est qu'il y a une marée. Et quelle marée dans les océans? Vous n'avez pas ça au bord de la Méditerranée, ou très peu. Et là, c'est l'expression marée haute, marée basse a été reprise dans la vie, et c'est aussi en quelque sorte presque un concept philosophique.
Ah oui, alors...
Vous écrivez « Le grand secret de savoir être à la hauteur de ce qui nous arrive, en eau vive comme en eau morte, à marée haute comme à marée basse. »
Oui, je pense que... Alors ça, c'est une des premières leçons que nous donne, je pense, la mer, l'océan en l'occurrence, même si je ne crois pas tellement à la différence. Mais qu'est-ce que c'est que vivre pour nous? Alors, je ne vais pas résumer des millénaires de philosophie, mais je crois que l'essentiel et ce qui est le plus difficile, c'est être à la hauteur de ce qui nous arrive. Parce que nous ne sommes pas maîtres entièrement de ce qui nous arrive. Entre ce qui a commencé sans moi, ce qui n'a pas demandé mon consentement et ce que je vais affronter, il y a cet espace minime, mais quand même... qui contient une forme de grandeur, cet espace de ce que je peux faire. Et ce que je peux faire, je crois, C'est accueillir ce qui vient. Alors, c'est un principe stoïcien, bien sûr. C'est un principe stoïcien, mais j'ai du mal à me dire qu'il ne contient pas une vérité profonde.
Oui, parce que vous êtes assez critique avec les stoïciens, si mes souvenirs sont bons.
Normalement, vos souvenirs sont bons. Je ne peux pas vous mentir. Normalement, je suis critique, mais je pense que je suis critique parce que je résiste toujours à ce qui me semble vrai. Enfin, je pense que ça aussi, la philosophie, c'est une école du doute. Donc, il faut résister à ce qui nous fascine. Mais là, cette idée de... Alors, Épictète le dit, hein, il faut que tu accueilles les événements comme ils viennent. Parce que c'est ça, vivre. Je crois qu'il y a des choses qu'on doit faire, parce qu'on peut les faire. Et je crois que la morale, c'est précisément ce territoire de ce qu'on peut faire. Donc, le territoire de nos libertés. Mais il y a aussi dans nos vies des terres qui sont celles que je n'ai pas choisies, dont je ne suis pas propriétaire. Et que toute la grandeur de la vie, qui est aussi cette humilité dont on parlait, c'est d'accepter, de consentir à ce qui n'a pas demandé mon consentement. Ça, c'est Ricoeur qui dit ça, donc le philosophe de notre président, normalement, qui dit que, je le dis autrement avec mes mots à moi, que être humain, c'est toujours prendre le train en marche. Je crois que Ricoeur dit, c'est être des êtres du milieu. Ben, c'est pas moi qui ai décidé du début, j'ai peut-être même pas décidé du scénario ni des personnages, et j'ai pas la main sur la fin. Mais en tout cas, le milieu, ça m'appartient.
Et ce qui est beau, c'est qu'à marée basse, la mer se laisse désirer, en fait. Il faut aller la chercher. Et souvent, en période de grande marée, il faut aller la chercher loin. Il y a un petit côté aventure. Et alors qu'à marée basse, marée haute, pardon, elle s'impose d'elle-même, parfois fortement.
Alors, ce que vous dites, c'est exactement l'expérience que j'ai. C'est-à-dire que, pour moi, l'océan, quand l'océan se retire... Alors, je vais fâcher 50% de la planète, hein, parce que certains... Il y a des hommes de la mer, il y a des hommes de l'océan. Mais... Quand cette mer se retire, je me rends compte que ce qui m'attire dans la mer qui n'a pas de marée, c'est le fait qu'elle s'impose tout le temps. Jamais là où je vais, plusieurs fois par an, jamais la mer ne se retire. Et la grande différence, c'est celle que vous venez de donner. Et c'est dommage, je ne vous ai pas vu avant parce que je l'aurais mise dans mon livre. C'est que l'océan, alors il se fait désirer parce qu'il se retire.
Parfois
alors,
très loin.
Parfois, on a même l'impression qu'il disparaît. Oui. Enfin, Et puis, il y a cette impudeur. Il laisse ces terres dévoilées qui sont... Oui, il y a presque quelque chose d'impudique et d'obscène, hein, ces paysages quand l'océan s'est retiré. Mais moi, ce qui me fascine, c'est quand la mer ne se retire jamais. Qu'elle est toujours là. Qu'elle s'impose absolument et qu'elle maintient cette voix qui nous dit « Tu ne mourras pas ».
Et puis, il y a... Les îles, il y a la Corse, par exemple. Et si nous écoutions Blaise Cendrars, par exemple.
Île où l'on ne prendra jamais terre, île où l'on ne descendra jamais, île couverte de végétation, île tapis comme des jaguars, île muette, île inoubliable et sans nom, je lance mes chaussures par-dessus bord, car je voudrais bien aller jusqu'à vous.
Belle bateau, qu'est-ce que belle bateau dans la rade, belle bateau dans la rade, et n'a toi capitaine commandé. Capitaine du gouverne, le ponceau, c'est gon gouverne à Balakal. Comme à Timousitan, ça li gouverne par la Ouloulima. Sur la voile, qu'est-ce qu'on a sur la voile désirée? Sur la voile désirée, je ne pas qu'on gagne les temps pour s'enlever. Inaé!
Suite du magazine Idée consacrée à la petite philosophie de la mer, signée Laurence De Villers. On vient d'écouter successivement Blaise Cendrars et un chanteur mauricien, l'île Maurice, Marc-Claire Antoine. avec une chanson qui s'intitule « Bel bateau ». Quand vous avez entendu Blessandra, vous êtes écrié.
Ah oui, parce qu'il y a deux Blaise dans ma vie. Il y a Blaise Pascal et il y a Blaise Sandrard. Et il, vraiment, merci du choix. Il de Blaise Sandrard, c'est exactement ce que j'avais à l'esprit quand j'ai écrit le chapitre Il. Donc, bravo Erechi.
Bien tombé, alors.
Parce que vous dévoilez
bravo
secrets.
Vanessa Rovensky.
Ah oui, bravo, merci. Et je compare l'île avec l'insularité, avec le fait d'être soi. Les îles, c'est à mon avis une philosophie du sujet. C'est les îles où on ne prendra jamais terre. En réalité, je ne dois être, je n'appartiens qu'à moi-même. Je pense que l'insularité, c'est cela qu'elle nous dit.
C'est ce que vous écrivez, Laurence. Être une île au large des continents, plus volcan que terre ferme, et préserver le feu sacré, son propre feu, ne pas céder, ne pas imiter, ne pas trop hâtivement consentir à s'apparenter au plus grand nombre ou même à quelques-uns.
Ah oui, je pense qu'il faut cultiver le fait d'être seul. Enfin, d'être seul en mer, l'insularité, c'est une île, c'est ce qu'on ne prend pas, ce qu'on ne soumet pas, ce qu'on n'arrime pas.
Vous qui connaissez la Corse, vous savez de quoi vous parlez.
Absolument. Et je l'ai expérimenté en Corse, vraiment, pas seulement parce que c'est la Corse et politiquement qui peut réclamer aussi à faire vivre cette insularité, mais quand on est sur une île et qu'on y va souvent, comme c'est mon cas, on sent effectivement qu'il y a un mot très compliqué qui dit ça, un mot grec, l'idiosyncrasie. Il y a un mot dans le langage courant qui dit qu'est idiot. Mais alors c'est plus joli en grec, on est d'accord. De se faire traiter d'idiot en grec, c'est toujours mieux. Mais idiot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas de second, je suis à nul autre pareil. Et ce qui me frappe, c'est qu'on dit que nous sommes dans une société, une époque, une civilisation même individualiste. Peut-être, mais ce qui me frappe, c'est qu'on n'a jamais été autant pris dans des cercles, des clubs, des réseaux qui effacent mon insularité. Je suis frappée de voir
plus que jamais,
nous consentons à des phénomènes qui sont des phénomènes d'effacement de ma singularité. On parle des algorithmes, mais l'algorithme, c'est le fils de son temps. C'est-à-dire qu'en fait, on consent à être réduit à des comportements, à être follower, par exemple. C'est atroce. Enfin, moi, je veux suivre personne. C'est ça, l'insularité. Moi, je veux être une idiote. C'est-à-dire que je veux être unique en mon genre. Et je crois qu'une des leçons que j'ai tirées de Descartes et du XVIIe siècle, c'est que je n'appartiens qu'à moi-même. Vous savez, j'ai dit le XVIIe siècle, excusez-moi, c'est pas très exotique, mais en fait, ça l'est.
Mais si, dans notre émission, nous aimons le XVIIe siècle.
Il y a un personnage de Corneille qui est... moi, j'aimerais travailler cette idée d'un complexe de Médée. Médée, alors évidemment, elle est atroce, vous me direz, c'est une femme qui tue ses enfants.
C'est celle qui a tout quitté,
elle, à la fin de la pièce de Corneille, elle dit « Je rejoins ma propre grandeur, je suis ce que je suis ». Et ça, je crois que c'est quelque chose que nous ne cultivons pas suffisamment. En réalité, je pense que nous sommes individualistes en surface, mais très profondément, on a cédé sur notre idiotie, c'est-à-dire au sens fort, notre singularité et notre insularité.
Et sur une île, Daniel Defoe a créé Robinson Crusoe, dont vous dites qu'il n'est pas celui que l'on croit, en quelque sorte.
Ah oui, le Robinson de Defoe, quand on le lit, en fait, c'est... alors, c'est un livre qui a beaucoup marqué Marx, que Marx l'a beaucoup lu et s'en est imprégné. Le Robinson de Defoe, il va recréer la société, parce que justement, c'est pas du tout un homme du Farniente. Donc, Robinson, c'est la philosophie du XVIIIe siècle. Nous sommes ce que nous sommes par notre travail, en cultivant la terre, en occupant le temps.
Les journées sont faites pour être remplies et bon, il faut dire que lui, il cherche à survivre aussi.
Il cherche à survivre, mais c'est aussi les origines du libéralisme. On emploie beaucoup le mot, mais il faut être strict sur ce qu'est le libéralisme. Le temps ne doit pas être laissé en jachère. Et il y a une forme d'élection, presque au sens religieux. Je sais que je ne suis pas n'importe qui, si je réussis. Et la réussite, elle passera par le travail. Et la prospérité. Donc le Robinson des origines, c'est un auto-entrepreneur en réalité.
Oui.
Et je me demande si nous, quand on parlait de ce stakhanovisme du tourisme ou des vacanciers, si nous ne ressemblons pas davantage à ce Robinson hyperactif qu'au Robinson que nous rêvons, qui serait celui du Farniente. Ne rien faire est très très difficile. Comme, je crois qu'il y a deux choses qui sont absolument rédhibitoires pour nous à l'heure actuelle, c'est le silence, Vous avez remarqué que même au restaurant, enfin partout, il y a de la musique.
Nous avons consacré une émission à cela, à l'environnement sonore qui est le nôtre aujourd'hui.
Ouais. Qui est une tyrannie sonore. Donc je pense que nous avons deux démons, le silence et le faire, l'agir permanent.
Alors, il y a une chose dont il faut se méfier, enfin des êtres, des créatures dont il faut se méfier, surtout quand on est un homme, ce sont les sirènes.
Oui, les sirènes.
Elles sont dans votre livre, il faut fuir les sirènes. Ulysse en sait quelque chose.
Ulysse en sait quelque chose et il a su faire face aux sirènes, c'est-à-dire qu'il les a écoutées, mais il était attaché à un mât.
Oui, parce que sinon ça aurait été impossible.
Impossible de résister.
Oui.
Les sirènes, ce sont des faux désirs en réalité. Vous savez, c'est ce qui crie très très fort en nous, ce qui nous submerge, qui nous aveugle, qui nous semble être un vrai désir et qui en fait va nous perdre. Et donc là aussi, ça demande un exercice de discernement. Enfin, la philosophie, c'est une école de discernement. Hein. Quels sont ces faux désirs en nous? Qui hurlent plus fort que les autres, qui ont le dernier mot, mais qui en fait vont nous perdre. C'est difficile d'identifier ces faux désirs en nous.
Parce que ces sirènes sont partout maintenant. Elles nous appellent tous les jours pour consommer, pour se comporter de telle ou telle manière.
Pour penser même.
Pour penser comme il faut.
Il y a des sirènes même qui nous disent quoi penser. Enfin, et ça rejoint ce qu'on disait, il y a tellement peu de vide. Dans nos sociétés, c'est aussi ce que disait Sandra, hein, les îles sont muettes dans son poème. C'est important d'être muet, de ne rien dire. Et en fait, ça, nous avons beaucoup de mal à être muets. Mais les sirènes, elles nous donnent du... Les sirènes, c'est tout ce qui est à disposition. Et alors, nous sommes quand même dans une époque, et tant mieux, hein, d'une certaine façon, où presque tout est à disposition. On vous dit quoi penser, on vous dit ce dont il faut être informé, on vous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes. Donc les sirènes, c'est toutes ces consignes, mais auxquelles nous consentons facilement en réalité. Et moi, la première, je me retrouve par exemple à avoir des tics de langage que tout le monde a. Ça aussi, ce sont des sirènes. Je me retrouve à penser comme tout le monde, Quand je ferais mieux de me taire, à parler et à dire des choses qui sont à disposition. Voilà, on a beaucoup trop à disposition et en même temps, il y a une pénurie de choses importantes.
La mer vous a aussi fait penser au pavillon des bateaux. Et ça, j'ignorais que c'était précis à ce point. Il y a un code international de communication maritime. Et grâce, il y a la radio, certes, mais il y a aussi les pavillons, les petits drapeaux que l'on met en haut du mât, qui, selon la couleur et les signes qu'ils arborent, veulent dire des choses totalement différentes. Vous nous rappelez, par exemple, que le pavillon A, alpha, indique ainsi « J'ai un plongeur à l'eau, gardez vos distances et passez à faible allure. Le pavillon D, delta, est plus directif encore. Ne me gênez pas, je manœuvre avec difficulté. »
Oui, et alors c'est une langue absolument internationale. Donc, et c'est ça qui est fascinant en mer, c'est qu'évidemment on ne peut pas se parler, on est à des distances, on ne peut pas se parler. Et il y a une efficacité de ce principe d'économie. Un seul foxtrot, je suis en détresse, un seul pavillon et vous dites l'essentiel.
Ah, le pavillon F, foxtrot, c'est ce que vous venez de dire, Laurence, signifie « je suis désemparé, communiquez avec moi ». C'est beau, non?
Est-ce qu'on est capable, voilà, et j'ai eu la même remarque que vous,
nos auditeurs a envie de hisser le pavillon F qui signifie « je suis désemparé, communiquez avec moi ».
Oui, mais je crois qu'on a une sorte de pudeur encombrante qui fait qu'on est très peu capable de phrases essentielles dans la vie. Et je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre de ce langage des pavillons. C'est important de pouvoir se libérer de cette fausse pudeur et de dire « je suis désemparé, je communiquer avec moi ». Et ce langage à l'économie, c'est-à-dire que on le disait, il y a beaucoup trop de parasitage, de bruit et de fausse pudeur. Je pense qu'on regrettera dans la vie les mots qu'on n'a pas dit. Comme les silences qu'on n'a pas honorés. Je pense qu'il y a ces deux choses, les silences qu'on n'a pas honorés et les mots qu'on n'a pas su dire. Et le langage maritime est une bonne leçon pour cela, parce qu'il va à l'économie.
Vous citez également dans d'autres parties du livre Herman Melville et son célèbre Moby Dick. Il faut éviter, comme Ahab, d'avoir une obsession. Lui, c'était tuer la baleine, une obsession mortelle. Vous dites, il faut modérer ses obsessions, évidemment.
Bah parce que l'obsession, en fait...
Autant que faire se peut.
Est une incapacité à vivre. C'est-à-dire que quand on vit son obsession, on le fait parce qu'on ne peut pas vivre la vie qu'on doit vivre. Et c'est exactement ce que fait Acab. Mais je dois vous dire quand même, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais j'ai essayé de le contenir, donc de me faire violence moi-même. C'est ça aussi la philosophie, hein, c'est se donner des leçons à soi-même. Acab me fascine. C'est-à-dire que ce capitaine obsédé par la baleine blanche, qui est éructant sur le pont et qui veut braver les dieux, les vents, les mers, c'est ça sa baleine blanche. Il y a quelque chose de fascinant dans la colère. Enfin, la colère est évidemment dangereuse, je ne veux pas dire le contraire. Mais dans la colère, il y a cette volonté de dire de cette réalité-là, je ne veux pas. C'est une toute-puissance illusoire, aveugle, vous pourrez me dire tout ça, hein, évidemment. Le réel, c'est ce à quoi on doit consentir, c'est sa définition. C'est ce que j'ai pas voulu, c'est ce que je n'attendais pas, c'est contre quoi on se cogne.
Se heurter, mais... c'est ça. Oui,
voilà,
ça,
on oui, se heurte au réel, et quand on passe de l'enfance à l'âge adulte, c'est ça, on se cogne, parce qu'on ne veut pas du réel, et on apprend qu'on va devoir faire avec. Mais je trouve magnifique cette colère, je trouve magnifique certaines colères qui disent... Ce réel, je n'en veux pas. Et la baleine blanche de Moby Dick, c'est ça. C'est cette réalité-là, j'en veux pas, je veux ma baleine blanche.
Oui, donc il se méfiait de personnages comme Acab qui peuvent être
fascinants,
dangereux. L'émission s'achève déjà, Laurence de Villers. Et il faut noter aussi que vous parlez des requins. On va terminer avec cette image que vous analysez dans votre petite philosophie de la mer. Quand vous parlez de la philosophie des requins, vous ne parlez pas des requins tels qu'on les imagine aujourd'hui, tels qu'on les décrit aujourd'hui, c'est-à-dire les ambitieux, prêts à tout, etc. Vous, c'est autre chose.
Oui, c'est dommage qu'on ait cette image, enfin, qu'on parle des cyniques et, comme étant des requins, parce que le requin, d'abord, c'est un animal qu'on a massacré. Quand je parle de la mer comme sanctuaire, c'est qu'il faut vraiment... pénaliser les massacres d'animaux et les massacres par le plastique. Donc c'est une évidence, mais je crois qu'il faut le dire. C'est un vrai massacre, il n'y a pas que des massacres d'humains. Et le requin est fascinant parce que c'est un animal que s'il s'arrête, il meurt. Alors vous allez me dire, pourtant j'ai fait l'éloge du farniente. Non, parce que le requin, c'est autre chose, c'est ce désir qui ne s'arrête pas. Et ça m'a fait penser à cette phrase de Hobbes, la vie est une course, désirer, c'est courir. C'est être heureux, s'arrêter de désirer, c'est mourir. Eh bien, le requin, c'est cette image-là, c'est-à-dire que...
Refuser la stagnation,
refuser la stagnation, enfin, ce qui m'entrave, ça peut être des habitudes, on pense tout de suite aux habitudes qui m'entravent, mais ça peut être aussi le manque de courage, c'est-à-dire accepter par lâcheté des situations, accepter par lâcheté des injustices contre lesquelles je ne vais pas m'insurger. Mais le requin, c'est justement cet animal magnifique qui ne s'arrête jamais. Et même quand ils se reposent, quand on est en plongée et qu'on voit des bancs de requins, ils sont juste en train de lentement continuer à bouger. Voilà une autre leçon de la mer.
Merci Laurence de Villers. On a bien compris que nous avions beaucoup aimé votre livre qui s'intitule « Petite philosophie de la mer » publié aux éditions de La Martinière. Vous revenez bientôt pour nous parler.
Ah, merci à vous, c'est toujours un plaisir.
Du XVIIe siècle. Idée réalisée donc évidemment par Vanessa Rovensky qui a nourri cette émission. Les poèmes lus l'ont été par deux comédiens, Éric Genovese et Sylvia Berger. Ce sont des extraits d'une anthologie de la poésie de langue française par les voix de la Comédie française. Retrouvez cette émission sur le site de RFI comme d'habitude ou votre moteur de recherche préféré. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées.